Merci beaucoup, Jean. Mon général, merci de votre invitation. Mon colonel, mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre présence. Pour comprendre le rôle du Pakistan en Afghanistan, la politique pakistanaise à l'égard de l'Afghanistan, il faut partir de la politique du Pakistan à l'égard de l'Inde. La politique afghane du Pakistan est complètement englobée dans sa politique indienne. Et il ne faut pas seulement considérer les relations entre ces trois pays deux par deux, mais comme un triangle. Et un triangle qui est un véritable arc de crise en réalité. Nous sommes très, très attentifs à tout ce qui se passe à juste titre au Moyen-Orient. Nous voyons l'arc de crise du Moyen-Orient, mais juste après, il y a un deuxième arc de crise que nous avons tendance à sous-estimer. La première clé pour comprendre cette politique pakistanaise, c'est que le Pakistan considère l'Inde comme son ennemi héréditaire. En 1947, la partition entre l'Inde et le Pakistan, ce n'était pas le premier choix des Pakistanais. En fait, les musulmans de l'Empire indien, depuis le 19e siècle, rêvaient d'une Inde indépendante avec le départ des Britanniques, mais une Inde dans laquelle les musulmans seraient tous restés avec les hindous. Simplement, dans les régions de cet immense pays dans lesquelles les musulmans étaient majoritaires, ils souhaitaient avoir une représentation équitable. Et c'était le cas au Pendjab à l'ouest et c'était le cas à l'est, au Bengale. Et les négociations entre Gandhi et Nehru d'un côté et Ali Jinnah du côté musulman ont capoté parce que les positions se sont durcies et Jinnah s'est rendu compte que, en réalité, Gandhi et Nehru voulaient une Inde indépendante de l'Angleterre, mais une Inde pour les hindous, dans laquelle les musulmans ne trouveraient pas une représentation politique équitable. Cette prise de conscience est venue assez tard, et c'est seulement en 1940 que Jinnah, au fond, a sorti son plan B, qui était la séparation et la construction d'un État pakistanais pour les musulmans fondé sur la loi musulmane. Donc, 1940, la proposition d'un État séparé, 1947, l'indépendance et la partition, et donc une indépendance bâclée et une indépendance sanglante donnant lieu à d'abominables échanges de populations, les musulmans envoyés par train du côté pakistanais, à l'ouest et à l'est, et les hindous se repliant et obligés de fuir un Pakistan dans lequel ils ne seraient pas les bienvenus. Et donc, depuis le départ, il y a au Pakistan un très grand ressentiment à l'égard de l'Inde, le sentiment que l'Inde voulait l'échec du Pakistan. Et plusieurs années plus tard, le maréchal Ayub Khan, qui a dirigé le Pakistan exactement en même temps que le général de Gaulle, il s'entendait bien du reste, 1958-1969, et Ayub Khan disait: l'Inde veut nous tuer dans l'œuf. Alors, il y a eu immédiatement un point de contentieux qui est devenu une source de conflits armés, ça a été le Cachemire. Le Cachemire, c'est une vallée himalayenne dans laquelle il y a des musulmans majoritaires, des hindous moins nombreux, des bouddhistes, petite minorité. Et comme il y avait une majorité de musulmans, normalement, ils auraient dû, au moment de la partition, être rattachés au Pakistan. Mais le Maharaja de ce Cachemire musulman était hindou. Alors, les Pakistanais ont envoyé au Cachemire, pour le déstabiliser, des commandos terroristes qui étaient Pashtuns. Le Maharaja hindou a appelé à l'aide l'armée indienne, L'armée indienne a réussi à mater cette incursion pachtoune et le Cachemire s'est trouvé rattaché à l'Inde. Énorme problème aujourd'hui encore, problème passionnel, parce que le Pakistan, dès le début, a eu l'impression qu'on lui avait volé une partie du territoire auquel il avait droit. Ça n'est pas l'équivalent de l'Alsace-Lorraine, parce qu'on avait l'Alsace-Lorraine et puis les Allemands nous ont pris l'Alsace-Lorraine. Là, c'est un territoire qui ne faisait pas partie d'un Pakistan qui n'existait pas, mais qui aurait dû être rattaché. Donc, ça, c'est le premier problème. Un autre problème, c'est qu'en réalité, quand on regarde l'évolution du Pakistan depuis le début, ce pays n'a pas réussi à fédérer ses composantes régionales autour de l'islam. L'islam n'est pas un ciment fédérateur solide au Pakistan, parce qu'il y a plusieurs islams. Il y a l'islam que nous aimons, qui est un islam, l'islam soufi, complètement pacifique. Il ne faut pas oublier que l'Asie du Sud a été conquise non pas par des armées musulmanes, non pas par la guerre, mais par le charisme de très grands prédicateurs. Et là où ils sont morts, il y a des mausolées, et là où il y a des mausolées, il y a des pèlerinages. Et ces pèlerinages soufis au Pakistan donnent lieu à des fêtes avec beaucoup de musique, avec des vêtements de toutes les couleurs. Les femmes ne sont absolument pas voilées. On peut dire que c'est l'islam majoritaire au Pakistan, cet islam sunnite très pacifique en réalité. Et puis, il y a l'islam Deobandi, du nom de Deoband, au nord de l'Inde, qui a été un lieu de développement d'un islam très rigoriste. Et puis, il y a un conflit très grave entre sunnites et chiites au Pakistan, comme c'est le cas en Afghanistan. Les Pakistanais ayant toujours peur que l'Iran n'utilise la communauté chiite du Pakistan pour déstabiliser le Pakistan. Et il y a eu ces dernières années des attentats horribles contre, donc entre Pakistanais, entre musulmans, des attentats provoqués par des Pakistanais sunnites contre des Pakistanais chiites. Les Pakistanais soupçonnent l'Inde d'encourager le séparatisme baloutche. Donc il faut suivre de près ce qui se passe au Baloutchistan. Là, il y a une source d'instabilité. C'est une immense région très, très désertique, mais avec des ressources, gaz. C'est par le Baloutchistan que devrait passer notamment l'oléoduc que les Chinois construisent. Et il y a là 12 millions d'habitants qui, au moment de la partition, ne voulaient pas rejoindre le Pakistan. Ce qu'ils voulaient, c'était un Baloutchistan indépendant. Donc, il y a un risque séparatiste. C'est un séparatisme, c'est un nationalisme qui est très, très religieux en même temps. Donc, le Pakistan, aujourd'hui encore, soupçonne en permanence l'Inde de chercher à le démembrer. Et l'armée se considère garante à la fois de l'intégrité territoriale du Pakistan, de l'unité du pays et de son identité musulmane. Alors, tout ça explique pourquoi, très vite, la priorité budgétaire a toujours été donnée à la défense. Énorme budget, 20% du budget, croit-on savoir. Et un budget à peine contrôlé par le Parlement, un budget qui échappe à toute espèce de contrôle que l'armée se fabrique elle-même et toute seule. Le Pakistan, c'est le seul pays musulman disposant à la fois de l'arme nucléaire et des missiles qui lui permettent de la transporter. Donc, arme nucléaire développé à partir de 1971, avec des essais nucléaires en 1998, juste après les essais nucléaires indiens, et puis un formidable développement balistique avec des fusées qui vont de plus en plus loin. programme soutenu par la Corée du Nord. Cet énorme effort budgétaire pour l'armée explique que les autres politiques aient été complètement négligées. Et la politique qui a été le plus dramatiquement négligée, ça a été l'éducation nationale. Donc, ou bien il n'y a pas d'école, ou bien il y a une école, mais elle n'a pas de toit, ou bien il n'y a pas de professeur, ou bien il n'y a pas de manuel scolaire. C'est vraiment affreux. Les gens les plus riches s'en tirent en créant des filières d'enseignement privé. L'armée fait de même, mais le lien est évident avec les madrassas. Ces fameuses madrassas, comme disait Jean, dans lesquelles on entre vers 6-7 ans, on passe 10 ans à apprendre le Coran, et en sortant, on ne sait absolument rien faire d'autre que de réciter en arabe, qui n'est absolument pas la langue du Pakistan. C'est l'ourdou, et qui ne sont bons à rien d'autre qu'à faire la guerre, en réalité. Et alors, l'enseignement dans les madrassas est fortement marqué de préjugés anti-indiens. On remonte les jeunes pakistanais contre l'Inde en permanence, etc. Et alors, cette priorité donnée à la défense justifie le statut particulier très puissant des militaires au Pakistan. Depuis que le Pakistan existe, les militaires, ou bien ils sont au pouvoir, 32 ans sur 75, ou bien ils contrôlent les gouvernements civils. Alors, les militaires au pouvoir, vous vous souvenez de leurs noms, Ayub Khan, Yahya Khan, Ziaoulak, Musharraf. Les civils, Zulfikar Ali Bhutto, Benazir Bhutto, Nawaz Sharif, Ali Zardari et aujourd'hui Imran Khan. Donc, quand les militaires ne sont pas au pouvoir, ils exigent d'avoir la maîtrise absolue de la politique, de la politique étrangère, de la politique de défense et de la politique de sécurité qui inclut la lutte antiterroriste. Dans tous les cas, quand on parle de l'armée, il faut parler de l'armée de terre. Et l'homme fort du Pakistan, ce n'est pas le chef d'état-major des armées, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre. C'est le patron du pays. Et les services secrets, ISI, Inter-Services Intelligence, sont très autonomes. Ils sont totalement autonomes par rapport aux civils. Ils échappent à tout contrôle des civils, mais ils sont assez autonomes par rapport à l'armée elle-même. Personne ne sait qui pourrait déclencher le feu nucléaire. Personne ne sait. Et rien, aucun premier ministre civil n'a réussi à obtenir que ce soit lui. Les militaires ont toujours refusé. L'armée a joué aussi un rôle dans le durcissement des lois islamiques. La période la plus funeste a été la période du général Zia, qui a fait voter une loi sur le blasphème, la peine de mort à tout propos, une interprétation de l'islam extrêmement rigoriste. Et avec, c'était les années 70, avec cette idée que le Pakistan devait être plus musulman que les autres musulmans et que l'armée pakistanaise devait être encore plus musulmane que le reste de la population. Et ces lois de l'époque de Ziaoulak, aucun gouvernement civil n'a eu le courage de les abroger. La loi sur le blasphème, un ministre qui proposerait de l'abroger, un premier ministre, serait assassiné très, très rapidement. Je terminerai sur l'armée en rappelant que les trois guerres que le Pakistan a eues avec l'Inde, contre l'Inde, c'est le Pakistan qui les a déclenchées. C'est l'armée qui les a déclenchés, soit en envoyant des éléments conventionnels, même en territoire indien, pénétrer en territoire indien, des chars, soit en organisant des infiltrations terroristes au Cachemire. Donc, 1947-48, 1965, 1971, 1999, chaque fois, c'est l'armée qui déclenche la guerre contre l'Inde, sans demander l'avis des civils, et chaque fois, la guerre est perdue. Et paradoxalement, l'armée apparaît comme le seul pilier solide aux yeux de l'opinion sur lequel le pays puisse s'appuyer, et elle est très populaire. Elle est très influente au-delà de son périmètre politique étrangère, défense, sécurité. Les généraux à la retraite sont très nombreux dans les entreprises que contrôle l'armée, donc c'est un peu comme en Turquie et en Égypte, où l'armée a des prises de contrôle dans un certain nombre d'entreprises. Il y a des boulangeries dans lesquelles les militaires ont des actions, par exemple. Et elle est présente dans beaucoup d'associations. Elle contrôle la presse. Elle est présente dans les think tanks. Et puis, elle est présente dans toutes sortes de clubs où les généraux à la retraite se mélangent avec les civils et diffusent la vision stratégique de l'armée. Chaque fois qu'un Premier ministre a tenté un rapprochement avec l'Inde, chaque fois, l'armée l'a saboté en organisant un attentat terroriste en Inde qui ruinait les efforts des diplomates. Finalement, les deux pays se tournent le dos. Jean et moi, nous sommes allés à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. C'est absolument ahurissant parce qu'on avait une frontière de quelque chose comme 2000 km avec deux ou trois points de passage seulement. Donc, vous avez 1,3 milliard d'un côté, 200 millions de l'autre, des gens qui se ressemblent, en fait, et qui n'échangent pratiquement pas. Il y a quelques camions qui passent par jour, en particulier les camions indiens qui vont en Afghanistan. Et puis, il n'y a aucune espèce de partenariat entre universités, entre les villes, rien, rien, rien. C'est un énorme gâchis. Le Pakistan ne réalise avec l'Inde que 2% de son commerce extérieur, vous vous rendez compte. Alors, deuxième clé pour comprendre la politique du Pakistan à l'égard de l'Afghanistan, le Pakistan a la hantise d'être pris en tenaille entre une Inde hostile et un Afghanistan pro-indien. Et là, le concept de profondeur stratégique ne doit pas être interprété au sens militaire du terme, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été question pour l'armée de terre pakistanaise de se replier en territoire afghan, un territoire, comme le rappelait l'ambassadeur, très, très montagneux, avec une frontière qui est très, très difficile à franchir. C'est pas ça. En cas d'attaque de l'Inde en territoire pakistanais, l'armée de terre ne va pas se replier en Afghanistan. Non, ce que les Pakistanais veulent dire par profondeur stratégique, il faut donner une signification politique à ce concept, c'est faire en sorte qu'à tout moment, la politique afghane, quel que soit le gouvernement en place à Kaboul, soit aussi peu pro-indienne que possible. Que les liens entre l'Afghanistan et l'Inde soient aussi fort que possible, et contrecarrer par tous les moyens la présence et l'influence indienne en Afghanistan. Ça, c'est, je crois, la clé fondamentale pour comprendre ce qui va se passer à partir de maintenant. Et le Pakistan dénie à l'Inde le droit d'avoir, elle aussi, des intérêts stratégiques en Afghanistan. Dès le début, dès la création du Pakistan, parce que le Pakistan, on n'a pas à remonter bien loin dans le temps quand on parle du Pakistan, contrairement à ce qu'il faut faire quand on présente l'Afghanistan, mais dès le début, méfiance réciproque. Et d'abord, l'Afghanistan n'a jamais reconnu la ligne Durand, donc cette ligne de démarcation tracée par le diplomate britannique haut fonctionnaire de l'Indian Service qui s'appelait Sir Mortimer Durand, en 1893. Pour le Pakistan, c'est une frontière internationale. Pour l'Afghanistan, c'est une simple ligne de démarcation. Pourquoi est-ce que l'Afghanistan ne veut pas reconnaître la ligne Durand comme une frontière? Parce qu'elle coupe en deux le peuple Pashtun, dont Jean Damécourt a parlé. Les Pashtuns, probablement 50 millions en tout, dont probablement 30 millions au Pakistan, 20 millions en Afghanistan. Ce qui est sûr, c'est qu'au Pakistan, ils ne représentent que moins de 20% de la population et en Afghanistan peut-être 40%. Je vous recommande le livre du général Alain Lamballe, Les Pachtounes, un grand peuple sans pays. Au moment de la partition et de l'indépendance du Pakistan, les Pachtounes, on rêvait d'un Pachtounistan indépendant qui aurait regroupé au sein d'une même nation, sous un même drapeau, les Pachtounes côté afghan et les Pachtounes côté pakistanais, séparés par l'anglais durant de manière totalement arbitraire. Dans les années 70, le premier ministre Daoud parlait de la région Pachtoune côté pakistanais comme de territoire usurpé. Et c'est à ce moment-là que Zulfikar Ali Bhutto a décidé de donner asile à l'opposition afghane islamique à Daoud. Ça a été le début de cette guerre par procuration. Et comme l'a fort bien écrit Georges Lefebvre, qui est un remarquable connaisseur de la frontière afghane pakistanaise, Georges Lefebvre a dit que Zulfikar Ali Bhutto avait su donner une dynamique opérationnelle à l'idée de profondeur stratégique. Cette frontière, elle est poreuse, il n'y a aucun contrôle, il n'y a pas de poste frontière, les talibans circulent dans les deux sens, c'est une région qui, depuis l'époque britannique, est complètement abandonnée par le gouvernement central qui a renoncé à l'administrer, et c'est un droit coutumier, Pashtun, qui reste en vigueur dans ces régions, sous développement économique, madrassa, comme tu l'as dit, se multipliant de façon spectaculaire. Et l'ethnie Pashtoune, au fil des années, est devenue la matrice des talibans. Je n'y reviens pas. Pendant les années de l'occupation soviétique, le Pakistan a hébergé les Moudjahidines avec des financements saoudiens et américains. Le Pakistan de Benazir Bhutto était un des trois seuls États, avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, à reconnaître officiellement le premier gouvernement taliban. À partir de 1990, les ingérences pakistanaises dans la vie afghane, dans la politique intérieure afghane, sont permanentes. D'abord, on soutient les Moudjahidines contre Najibullah. Le Pakistan ensuite soutient Hekmatyar contre Massoud, les talibans contre Karzai. Donc, une longue histoire d'immixtion, d'ingérence permanente en tirant les ficelles du jeu politique afghan. Pour les Pakistanais, le partenariat stratégique que Karzai a signé avec l'Inde est vraiment insupportable. Le Pakistan accuse l'Inde d'aider les nationalistes baloutches, dénonce le rôle des consulats indiens en Afghanistan. Alors, par exemple, la presse pakistanaise répète en permanence un mensonge qui est qu'il y a 12, c'est cette espèce de fixation sur ces 12 consulats généraux indiens en Afghanistan qui attisent le nationalisme baloutche, qui font passer des éléments terroristes, etc. Alors qu'il y a 4 consulats indiens. Ben oui, c'est ça. Après le 11 septembre, les talibans ont succédé aux Moudjahidines, le Pakistan a hébergé les talibans, l'ISI organisant leur accueil côté pakistanais. Et donc, au même moment, sans y voir aucune contradiction, le Pakistan finançait, hébergeait, nourrissait les talibans afghans repliés chez lui, ces talibans qui venaient tuer nos soldats. Et au même moment, le Pakistan mettait à la disposition de la FIAS, des Américains, le port de Karachi, pour faire transiter vers l'Afghanistan tout le matériel militaire dont, dont la coalition avait besoin. Je me rappelle très bien les visites à Kaboul de notre chef d'état-major des armées ou du chef de l'état-major particulier du président de la République et qui allait voir le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Kayani. Et il disait à Kayani, nous avons une seule chose à vous demander, s'il vous plaît, cessez d'héberger, de soutenir le réseau Haqqani. Et alors, le SEMAT pakistanais disait, mais de quoi parlez-vous? Mais je ne comprends pas, mais Haqqani, c'est un Afghan, et puis ils sont complètement indépendants de nous. Enfin, ouais. Mais il disait ça dans les yeux. On dit toujours les choses en face, dans les yeux. Voilà. Alors, juste avant le retour des talibans d'août dernier, le scénario dont qu'espéraient les Pakistanais, c'était un gouvernement d'union nationale avec des talibans et d'autres forces politiques, mais sans le président Ashraf Ghani, en qui ils n'avaient aucune confiance. Ensuite, une armée nationale afghane aussi peu ouzbek et tadjik que possible, avec un encadrement aussi pachtoun que possible. Et là, si je comprends bien, ça posait un problème. Parce que, ouais. Et puis, troisièmement, les Pakistanais auraient été rassurés que les gouverneurs des provinces limitrophes du Pakistan soient des gouverneurs pachtounes. C'était ça leur plan. Pendant les semaines marquées par la marche progressive des talibans vers Kaboul, les Pakistanais, le gouvernement, l'armée sont restés passifs, n'ont rien dit, mais une fois installés à Kaboul, les Pakistanais se sont publiquement félicités du retour des talibans et le premier ministre Imran Khan a dit « les talibans ont brisé les chaînes de l'asservissement ». Voilà. Je terminerai par les perspectives. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les mois qui viennent. Sur le plan intérieur pakistanais, nous avons un Premier ministre qui n'appartient pas à l'une de ces deux dynasties qui ont régné sur le Pakistan quand les civils étaient au pouvoir, les Bhutto d'un côté, les Sharif de l'autre. Non, c'est un homme seul au départ qui est très populaire parce que dans tous les échecs que le Pakistan a connus depuis qu'il existe, échec militaire dont j'ai parlé, mais échec économique, mauvaise image à l'étranger, c'est un pays qui fait peur, c'est un pays qui a très peu d'amis. Eh bien, il y a eu un moment d'immense fierté nationale en 1992, quand l'équipe nationale de cricket du Pakistan a gagné pour la première fois et pour la dernière fois la Coupe du monde de cricket. Et le jeune capitaine de cette brillante équipe était le jeune Imran Khan, assez charismatique, un peu physique d'acteur de cinéma, très sympathique en privé du reste, et qui a créé autour de lui un parti populiste. Et Imran Khan, il a passé une partie de... Après le succès du cricket, il s'est installé à Londres et il a épousé la fille de Jimmy Goldsmith et il a mené une vie tout à fait bling-bling à Londres, trouvant que l'Occident était formidable, etc. Et alors, il a complètement changé. Quand il a décidé de se lancer en politique, encouragé par l'armée, donc tout un parti politique créé par l'armée pour créer la zizanie, une zizanie encore plus grande entre civils. Donc là, vraiment, l'armée tirant les ficelles politiques dans la coulisse. Il a fallu qu'il change complètement de personnalité, Imran Khan. Alors, il est devenu très pieux. Il a divorcé de Mademoiselle Goldsmith pour épouser une femme très pieuse, voilée, et il est complètement admiratif des talibans. Bon. Donc il est très content, évidemment, de ce qui se passe à Kaboul. Mais il est en difficulté dans son propre pays parce qu'il y a encore plus radicaux, il y a des islamistes encore plus radicaux que lui, et il est débordé par ces mouvements islamistes qui ont une faible représentation parlementaire, mais qui occupent l'espace public avec une capacité de mobilisation de foule énorme que vous voyez à la télévision. Par exemple, lorsqu'il y a eu les manifestations contre la France à propos de la loi sur le blasphème. Et donc, il est obligé de tenir compte en permanence de ces mouvements. Et on a une sorte... Et la question du blasphème devient un sujet central, un sujet de politique intérieure hautement inflammable. Alors, le blasphème, si vous dites du mal du Coran, enfin, si vous critiquez le Coran, vous êtes condamné à la perpétuité. Si vous critiquez le prophète, condamnation à mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, Imran Khan défend une ligne que Marc Baretti appelle le national-islamisme, avec une bonne dose de tiers-mondisme et puis surtout une idéologie maintenant tout à fait anti-occidentale. Imran Khan a déclaré publiquement que Ben Laden était un martyr. Et Imran Khan considère que le deuxième État musulman le plus peuplé du monde, après l'Indonésie, doit être un des chefs de file du monde musulman contre l'Occident islamophobe. Chef de file aux côtés de la Turquie et de la Malaisie. Et donc, quand vous regardez, par exemple, le discours d'Imran Khan à l'Assemblée générale des Nations unies, l'automne dernier, la moitié de son discours est consacrée à dénoncer l'islamophobie en Occident et la deuxième moitié au Cachemire. Voilà, rien d'autre. Alors, pour des raisons opposées, la politique extérieure du... Oui, moi j'ai pratiquement fini. Mais pour des raisons opposées, la politique extérieure continuera à être très claire vis-à-vis de l'Inde. Sur la question du Cachemire, l'Inde estime qu'il n'y a rien à négocier, alors que le Pakistan cherche un international sujet. Une réconciliation indo-pakistanaise semble impensable. La Chine est plus que jamais le partenaire stratégique du Pakistan. Avec les États-Unis, relation en dents de scie, grande méfiance. Avec la Russie, bonne relation, notamment militaire, mais ce n'est pas un partenaire majeur. Iran, une cohabitation entre voisins qui s'entraident parce que le Baloutchistan iranien pose également un problème séparatiste. Et donc, il n'y a pas de rôle mauvais de l'Iran au Pakistan. Avec l'Arabie saoudite, les relations se sont détériorées, justement parce que le Pakistan veut ménager l'Iran. Et le partenaire qui monte, c'est la Turquie, qui a notamment formé des pilotes de l'aviation. Et la Chine, alors, est plus que jamais le partenaire stratégique. Vous connaissez bien le grand projet de corridor économique qui relierait l'ouest de la Chine à l'océan Indien. Le retour des talibans, alors j'en termine avec l'Afghanistan, le retour des talibans au pouvoir crée pour le Pakistan lui aussi une donne tout à fait nouvelle, parce que là, pour le coup, le Pakistan retrouve politiquement sa profondeur stratégique et vis-à-vis de la communauté internationale, le Pakistan regagne une valeur politique parce qu'il est le parrain historique des dirigeants talibans. Mais en même temps, pour le Pakistan, il y a des incertitudes et peut-être même des risques. Il y a des tensions intra-talibans. Est-ce que le Pakistan va prendre parti? Est-ce que le Pakistan a la capacité d'influencer les talibans dans le sens que nous souhaiterions? Ce n'est pas sûr du tout. Le Pakistan n'a pas de levier financier qui lui permettrait d'agir efficacement en Afghanistan. Les talibans vont probablement chercher à devenir de plus en plus autonomes par rapport au Pakistan, de s'émanciper de la tutelle pakistanaise à mesure que leurs relations internationales se normaliseront et se diversifieront. Les talibans n'ont jamais reconnu la ligne d'Iran, donc on peut imaginer qu'un jour les talibans afghans galvanisent les talibans pakistanais et suscitent des troubles au Pakistan. Ce qui est probable, c'est que pour le Pakistan, la situation optimale en Afghanistan serait alors là à nouveau un gouvernement inclusif dans lequel les talibans accepteraient que les autres forces politiques participent aussi. Ça éviterait la guerre civile, la reprise d'une guerre civile en Afghanistan, et ça éviterait l'afflux de nouvelles vagues de réfugiés. Donc, conclusion, le Pakistan est un partenaire avec lequel le dialogue est difficile pour tous les Occidentaux, parfois franchement décourageant, mais il a un rôle essentiel dans l'avenir de l'Afghanistan. Donc, c'est un partenaire incontournable. Nous ne devons pas nous faire d'illusions sur la capacité du Pakistan à faire évoluer l'Afghanistan dans un sens favorable à nos vues. Pardon d'avoir été trop long.